Okapi Service. Service Plus.
Okapi. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jody, c'est un plaisir de vous rencontrer.
La première question à savoir, c'est quoi Goalkeepers?
So Goalkeepers, c'est un rapport que la fondation Gates a émis maintenant depuis plusieurs années. L'idée du rapport, c'est de, surveiller le progrès que les pays sont en train de faire au niveau des objectifs mondiaux de développement. Et on essaie de souligner des résultats qui sont particulièrement extraordinaires au niveau des États. On regarde surtout les objectifs qui touchent à la pauvreté, à la faim, à l'éducation, à la santé. Ce sont, comme vous savez, les points qui sont les plus intéressants pour la Fondation au niveau de nos propres programmes. Et puis, on essaie aussi de trouver, non seulement au niveau des États, mais là où il y a des individus, des institutions qui sont en train de faire des choses intéressantes. Donc, ça, c'est l'objectif du rapport. Bien sûr, cette année, le rapport est à un temps particulier, compte tenu du COVID-19.
C'est chaque année que vous publiez ce rapport, Goalkeepers. Alors, pour cette quatrième édition, vous affirmez que la COVID-19 a retardé de 20 ans le progrès vers l'accomplissement des objectifs de développement durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, Jody. C'est vraiment désolant. C'est un fait que le monde a continué à faire du progrès les dernières décennies au niveau de la réduction de pauvreté, l'amélioration au niveau de l'accès à l'éducation, la santé, le déclin de la pauvreté. Cette année, malheureusement, ce progrès a été stoppé à cause de la catastrophe qui a été COVID-19. En fait, depuis les années 90, l'Afrique en particulier a commencé à faire des progrès. La plupart des pays ont connu une croissance économique, mais cette année, malheureusement, on estime qu'il y aura peut-être 13 millions d'Africains qui vont tomber sous le seuil de pauvreté et dans le pire, 50 millions. On voit que le Nigeria a maintenant dépassé l'Inde avec le plus grand nombre de personnes dans l'extrême pauvreté. Il y a d'autres chiffres, par exemple, qui montrent la catastrophe du COVID à part la pauvreté. On voit que le taux de vaccination qui avait augmenté depuis les années 70, on avait passé d'un chiffre de 5% d'enfants qui étaient vaccinés en 70, on était à 80% en 19, l'année dernière. Et maintenant, on voit qu'on est tombé de 80% d'enfants qui sont vaccinés à 70% cette année. Donc, un déclin de 14%. C'est un recul qui va long de 25 ans de progrès en juste 25 semaines. Et on sait que quand les enfants sont pas vaccinés, ils vont être vulnérables à des maladies comme la polio, comme la rougeole, comme la choléra. Et c'est vraiment quelque chose donc qui est triste pour nous de constater que le progrès qu'on avait soutenu, que les pays, que les leaders des pays, surtout en Afrique, avaient vraiment fait beaucoup d'attention au niveau des objectifs mondiaux, que maintenant, avec le COVID, juste en quelques mois, on a vu ce recul considérable.
Il y a un recul considérable en quelques mois. Est-ce que vous avez des données chiffrées par rapport à l'Afrique subsaharienne, et particulièrement par rapport à la République démocratique du Congo?
Malheureusement, Jody, étant donné que les pays sont préoccupés en essayant de gérer la crise du COVID, le rapport n'a pas vraiment pu retirer des chiffres à un niveau d'État. Donc, les chiffres qu'on voit dans le rapport sont plutôt globaux, sont plutôt mondiaux, et je pense que dans les mois à venir, on va peut-être essayer d'aller un peu plus en détail au niveau de ce qui se passe dans les pays. On sait qu'en général, en ce qui concerne les statistiques du développement, on a généralement un retard d'au moins 6 mois ou 1 an pour pouvoir rassembler les données. Donc, comme vous voyez, le COVID, on est encore dedans. Donc, il va falloir un moment pour pouvoir retirer les chiffres au niveau des États en particulier.
Bien. Alors, dans ce rapport, vous affirmez que les femmes à travers le monde sont plus touchées par les dommages économiques du COVID-19. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à l'impact de la maladie sur les femmes?
Oui. En fait, ce que le COVID-19 a fait, c'est que la crise a vraiment manifesté, je pense, partout dans le monde. Où sont les communautés qui sont les plus marginales ou marginalisées et où sont les déficits que les pays ont en fait à combattre. Et partout dans le monde, on sait que les femmes sont plus vulnérables en ce qui concerne l'emploi, les revenus, le statut et même la violence. Donc, ce qui s'est passé avec le COVID, c'est, on sait, par exemple, si on prend juste les ressources humaines dans la santé, il est estimé que 70% des travailleurs dans le secteur de santé sont des femmes. Ben, maintenant, on a vu qu'en fait, c'était des travailleurs essentiels qui ont été obligés à continuer à travailler pendant la crise. Ça veut dire que les femmes ont été plus exposées, plus vulnérables, à l'infection par vertu de leur pourcentage dans le secteur de la santé. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on sait que par vertu de la société, les normes sociales, les femmes en général sont les personnes qui donnent le plus de soins, qui prennent le plus de temps à la maison en faisant attention aux enfants et aux devoirs du ménage. On sait que maintenant les femmes, en fait, ont dû augmenter leur temps dans le travail qui est non rémunéré à la maison, beaucoup plus que les hommes, par vertu, comme je dis, des conventions sociales. Donc les femmes, en fait, ont dû travailler plus dans la maison pour faire attention aux enfants, à la famille et bien sûr ceux qui sont tombés malades. Dans les économies africaines, 86% des gens travaillent dans l'informel et on sait que ça touche surtout aux femmes. Les femmes ont moins de formalités au niveau du travail que les hommes, donc ça veut dire que quand elles peuvent pas travailler, il n'y a pas de recours. Elles n'ont pas accès aux transferts de l'État qui sont donnés aux gens qui peuvent pas être dans l'emploi parce qu'elles sont pas enregistrées formellement dans le système. Donc beaucoup de femmes ont perdu leur source de revenus, elles ont été obligées de rester à la maison et pouvaient pas aller faire le travail normal. Ça veut dire un manque d'indépendance, un manque de capacité de nourrir leurs enfants. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir eux-mêmes leur famille et les femmes en général. Quand une situation comme ça se présente, elles choisissent de plutôt nourrir leurs enfants qu'elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y aura une vraie crise de malnutrition pour les femmes, peut-être plus que pour d'autres membres de la famille. Ensuite, il y a la violence. Du fait d'être enfermé à la maison, et comme j'ai dit, il y a une perte d'indépendance pour beaucoup de femmes qui ont perdu leur moyen de revenus, elles sont restées à la maison. Dans des situations où elles sont dans des relations de violence avec leurs partenaires, on a vu donc il y a eu une augmentation de violence sexuelle contre les femmes et plus de rapports d'abus dans le ménage. Et les organisations qui travaillent sur la violence contre les femmes ont enregistré cette croissance dans les appels et dans les besoins pour les femmes. Donc, il y a vraiment du travail à faire pour les gouvernements, pour toutes les organisations nationales et internationales, pour faire que quand on essaie de construire et quand on essaie de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenant remonter nos économies, remonter nos sociétés, il y a une attention particulière qui doit être faite aux femmes à cause de toutes les raisons que je viens de citer.
D'après ce rapport, 4e édition des Goalkeepers, la pandémie a causé 810 000 morts et l'économie mondiale va perdre 12 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2021. Alors, quelles sont les solutions envisagées pour s'en sortir?
Oui, les solutions, Jody, seront considérables et vont exiger une réponse collective. C'est pour ça, comme vous voyez, on a dit pour le rapport, le tagline, c'est « le progrès est possible, mais pas inévitable ». Et pourquoi on a dit que c'est pas inévitable? Parce que pour sortir de cette crise économique, il faut vraiment avoir une réponse qui est collective. Les pays, surtout qui sont à revenus à moyens et faibles, ont besoin de soutien international pour sortir de cette crise. On voit par exemple que les pays du G20, ils ont pu remonter à montant au niveau des fonds d'urgence qui ont été au niveau de 18 trillion, 18 donc 1000 milliards de dollars. Ça, si on fait une comparaison avec les pays africains, on a pu faire seulement en moyenne un niveau de 3% de notre PIB au niveau des fonds d'urgence, en comparaison de environ 20% de PIB en fonds d'urgence qui ont été relevés par les pays à revenus élevés. Donc, on sait que les pays en Afrique, on n'a pas vraiment les moyens de sortir de cette crise par nous-mêmes. Les gens eux-mêmes, les individus, n'ont pas de réserves financières et les gouvernements non plus. C'est pour ça qu'il y a eu des efforts, par exemple, par les envoyés spéciaux de l'Union africaine, de faire le tour du monde virtuellement pour essayer de faire un appel aux institutions, aux pays au nord pour soutenir nos pays, pour les aider en ce qui concerne, par exemple, la restructuration des dettes, l'accès aux prêts à des taux qui sont favorables, parce que les pays eux-mêmes ont besoin de leurs réserves pour combattre le COVID-19, pour vraiment gérer la crise de santé. S'ils sont obligés d'emprunter pour gérer la crise de santé, c'est un trade-off, si vous voulez. On leur demande de faire quelque chose avec le peu de financement qu'ils ont, qui va les mettre encore plus en dette pour sauver des vies. Donc, s'ils peuvent emprunter de l'argent internationalement pour stimuler leurs économies, c'est un investissement qui est plus sain que d'emprunter pour sauver les vies. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut une réponse qui est collective, parce que les pays qui sont en Afrique ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils ont besoin de soutien international. Et on a vu par la nature de cette crise que le monde est vraiment interconnecté. Si les pays africains n'arrivent pas à sortir de cette crise au niveau de la santé, au niveau économique et financier, ça va avoir un impact sur le reste du monde. Donc, c'est pas un moment pour l'égoïsme. C'est un moment où tout le monde doit essayer de venir, de se rassembler pour dire comment on peut assister ceux qui ont besoin de notre soutien, que ce soit financier, économique ou au niveau des fournitures médicales et de la santé.
Bien, Nathalie, dans le rapport, vous affirmez que le monde doit collaborer sur trois actions pour maîtriser et enrayer la pandémie. Quelles sont ces trois actions?
Donc, en fait, ce qu'il faut, Jody, c'est on doit se réunir pour vraiment améliorer l'accès au diagnostic, le traitement et le vaccin. Si on n'arrive pas à faire une réponse collective, on va rester dans cette crise où les gens ont peur de sortir, où on ne peut pas complètement ouvrir nos économies, on ne peut pas ouvrir le voyage international Et donc, tant qu'on n'a pas un accès équitable au diagnostic, au traitement et vaccin, on va rester dans cette situation. Et comme j'ai dit, ça sera pas seulement les pays à moyen, à revenu moyen ou faible, mais ça va avoir un impact aussi sur les pays qui sont riches, parce que eux-mêmes, ils sont connectés avec les pays du Sud, par l'investissement, par le commerce, par le voyage. Donc, les trois choses, moi, je dirais, c'est vraiment de collaborer au niveau de financement et d'accès équitable pour les diagnostics, les traitements et les vaccins.
Nathalie Africa, je rappelle que vous êtes conseillère principale au directeur Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci et bonne journée.